RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. La Providence, cette générosité de Dieu, c'est le thème de l'émission aujourd'hui préparée en partenariat avec la Revue Croire. Notre existence prend de temps à autre des virages et le chemin devient tout autre, une rencontre, un événement, un appel. Notre vie s'éclaire et nous ne savons pas bien d'où vient la lumière. Tout n'est pas forcément facile, mais notre vie prend un nouveau tour. Un avenir nous attend et alors que nous étions dépassés et nous voilà comme transformés, est-ce Dieu qui se cache derrière ce hasard bienveillant que nous nommons Providence? Eh bien, on va essayer de répondre à la question avec mes invités. Sébastien Anthony, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre, assomptionniste, journaliste à la Revue Croire, mais aussi au Pèlerin. Vous intervenez de temps à autre sur RCF aussi, qui les auditeurs vous connaissent bien. Le numéro de cet été, donc, de Croire est consacré à la Providence, une divine délicatesse. Et on va donc en parler. Antoine Louis, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous êtes pasteur protestant, théologien. Dans la Revue Croire, vous avez écrit un article sous le titre « Un Dieu fidèle dans les épreuves ». Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous avez publié récemment un impressionnant et passionnant commentaire du Nouveau Testament, verset après verset. Le Nouveau Testament commentaire intégral est coédité par les éditions Salvator et Ovil et Olivetan. Marie Coquante, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste avant de vous consacrer entièrement à l'écriture, tout en vous engageant auprès de personnes handicapées et de leurs familles. Dans Petit Frère l'orage, vous évoquiez avec tendresse et délicatesse comment le handicap de votre frère avait bouleversé la vie familiale. Aujourd'hui, dans votre dernier roman, vous dressez le portrait d'une femme chrétienne du Moyen-Orient et de son frère handicapé, contraint de fuir « Je viens de Damas » et publié chez Ramsay.
C'est cela.
Isabelle Mordant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la mère de Thomas. Thomas atteint d'une forme de maladie des os de verre. Il a fallu l'accompagner pour qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse, jusqu'à ce qu'il entre même à Normal Sup, réussissant le concours à l'âge de 17 ans et avec vous comme soutien derrière pour l'accompagner sur ce chemin. Une aventure que vous racontez dans un livre qui vient de sortir, Mystère de la fragilité, avec une préface de Cédric Villani, publié aux éditions du Cerf. La Providence, cette générosité de Dieu, c'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Sébastien Anthony, beau thème pour l'été, la Providence, mais aussi peut-être pour les rigueurs de l'hiver. Est-ce qu'il y a une saison pour sentir cette Providence comme cadeau de Dieu?
J'espère que non, j'espère qu'elle n'est pas minutée ou paramétrée à des moments dans l'année. En fait, ce sont des témoignages qui nous sont arrivés, des témoignages de vie, de gens qui disent, voilà, on a envie de rendre grâce pour ce que le Seigneur nous donne, été comme hiver. Et on s'est intéressé justement à cette remarque, tout simplement, de se dire, c'est vrai que ça jalonne l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, de vouloir rendre grâce à Dieu, au Dieu, en tout cas de dire merci pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'était quoi? Et c'est ce qu'on a essayé, en tout cas, de réfléchir et de montrer dans ce cahier, qu'on a appelé du coup la Providence, donc les bienfaits que Dieu veut, donne en intervenant dans l'histoire.
Mmh. On sent que cette Providence, elle est liée à Dieu, comme vous l'expliquez, mais c'est aussi la confiance en l'avenir, la confiance en l'autre et au tout autre.
En fait, on a été embêtés hein, en faisant ce dossier, parce qu'on s'est dit, bon, Dieu est bon, très bien, mais effectivement, la question du mal vient heurter à un moment donné. Donc, est-ce que du coup, il n'est plus providentiel à ce moment-là? Est-ce que Dieu n'est que bonté? Enfin, plein de choses comme ça qui se sont rencontrées. Et du coup, de se dire, finalement, providence, c'est voir en avant, ouvrir un avenir, et peut-être de se dire que la providence de Dieu, avant de savoir si ce sont des choses bonnes qui nous sont données, la meilleure chose en tout cas, c'est peut-être un avenir qui nous est offert, un futur qui s'ouvre, quelque chose de neuf qui nous attend, et c'est peut-être d'abord ça la providence, avant de vouloir faire un catalogue, si j'ose dire, de choses bonnes que l'on peut reconnaître comme providence, mais d'abord un avenir offert à chacun.
Mmh. C'est quelque chose qui arrive, c'est un événement, quelque chose qui marque un point de départ.
En tout cas, c'est un futur possible. Alors, peut-être que c'est un événement qui peut dire un futur est possible, un avenir s'ouvre, quelque chose devant soi s'envisage et s'ouvre. Mais ça, c'est chacun finalement qui le reconnaît et qui souvent le reconnaît a posteriori, dans une relecture de sa vie, dans une relecture de son histoire, comme le peuple hébreu a pu le faire dans la Bible, pour faire court.
On voit des traces.
On voit des traces qu'on reconnaît après d'un avenir qui s'est ouvert.
Ça pose aussi quand même cette question de la liberté, peut-être aussi, parce que si intervention divine il y a, pourquoi il intervient et quand et que reste-t-il de cette liberté humaine ?
Est-ce que c'est la réponse à notre prière ? Est-ce que c'est... Bien sûr, non, mais la liberté est interrogée, effectivement, et la liberté, le mal, encore une fois, tout ça sont... On n'est pas très à l'aise, finalement, mais on a essayé d'y répondre dans le livre, dans le cahier croix.
Dans la revue. Ouais. Antoine Nouis, comment on peut définir, vous êtes théologien, comment on peut essayer de définir cette providence dont le terme même n'est pas véritablement présent dans la Bible.
Alors c'est vrai que c'est très difficile parce que je crois que selon chaque personne, selon là où l'on est dans son chemin de vie, dans son chemin de foi, la providence prendra une allure différente. Bon, je dirais pour définir la providence, il y a plusieurs étages. Hein. Le premier étage, bon, je dirais, c'est la foi de l'enfant qui a cette espèce de confiance aveugle que tout ce qui lui arrive est la marque de la bénédiction de Dieu sur son histoire. Bon, et au commencement de la foi, souvent, on est habité par cette compréhension de la providence. Et puis après, dans les chemins, dans les parcours de vie, il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la rencontre avec le mal, la confrontation avec le grand malheur, et de s'apercevoir que les choses sont pas si simples que ça. Et puis aussi la confrontation avec le silence de Dieu, avec la nuit, avec l'obscurité, ce sentiment que plus rien n'a de sens, et que donc cette traversée du mal interroge aussi la providence. Notre compréhension de la providence, et puis j'aurais envie de dire que voilà qu'il y aurait une espèce de troisième étage après, je dirais, la providence, l'appréhension naïve de la providence, après le refus de la providence, et je dirais une troisième étage qui serait sorte de peut-être la providence quand même, ou la providence comme pétition de foi, c'est-à-dire que de poser, de croire que au-delà et malgré toutes les ténèbres qui existent dans notre monde, etc., il y a quand même une providence à accueillir. Oui, donc c'est ces différents étages et je dirais ces différents étages correspondent aux différents étages de la foi, mais on circule toujours sur ces
on passe de l'un
étages,
à l'autre
en permanence,
en fonction de ce qui peut arriver et de notre chemin de foi. Ça veut dire peut-être que la providence c'est en fait accepter cette promesse de Dieu qu'il ne nous laisse jamais seuls.
Voilà, c'est de croire par principe que je dirais que même quand on a le sentiment que Dieu n'est pas là, même quand on a le sentiment que plein ne vaut rien, espèce de poser comme un défi, un acte de confiance, de voir que quand même il y a une providence à accueillir, même si on ne sait pas où elle est.
Malgré tout, dans la Bible, on sent aussi cette question qui est peut-être le deuxième étage de votre fusée. Dieu donne, Dieu reprend, il donne à l'un, pas à l'autre. Alors, c'est un peu la loterie.
Alors, je ne sais pas si c'est la loterie, mais enfin, en tout cas, chacun a un parcours de vie, ça c'est clair, je dirais. Et ce qui est clair aussi, c'est que cette tension entre présence et absence de Dieu, entre l'épreuve et Dieu quand même, c'est un... Quelque part, c'est l'enjeu de notre vie, mais cet enjeu-là, il est éternel, il appartient à l'humanité. Et de ce fait-là, on le trouve aussi dans l'Écriture. Et dans l'Écriture, je dirais, on pose habituellement Abraham comme étant le père de la foi, comme étant celui qui est une sorte de modèle de foi, mais quand on regarde le parcours d'Abraham, c'est vécu avec des traversées de désert, avec des traversées de temps silence, avec des moments où il comprend pas, et si on prend justement Abraham comme étant le modèle de la foi, on sait que c'est une foi qui est un combat, une foi qui est toujours travaillée.
Dans la revue, Sophie de Villeneuve, qui est rédactrice en chef, souligne bien que Dieu y pourvoira, ça ne veut pas dire lâcher prise, il n'y a rien à faire.
Je crois que Dieu y pourvoira, ça veut dire le pari de la foi, c'est de croire que, y compris qu'il n'y a pas de ténèbres dans lesquelles il n'y a pas une lumière à accueillir quelque part. Donc c'est cette espèce de se dire que voilà, quand je suis dans la traversée de ce à quoi je ne m'attendais pas, de ce que je ne comprends pas, de l'injustice, du grand malheur, etc., parier qu'il y a quand même une présence à accueillir quelque part. Voilà. Il me semble que, et ça, c'est le combat de la foi pour tout le monde.
Sébastien Anthony, c'est une clé de lecture de nos vies comme de l'évangile?
Je le crois profondément. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, comme souvent. Mais, mais c'est vraiment de se dire, voilà, c'est toutes ces questions que l'on peut retrouver dans la Bible. Voilà. On arrive avec une sortie d'Égypte, par exemple, avec, voilà, une promesse d'une terre qui arrive et craque, et à la mer qui est devant soi, ben comment va-t-on la traverser? Les femmes au tombeau, mais qui nous roulera la pierre? Toutes ces questions-là qui sont légitimes, qui nous arrivent dans nos expériences de vie, avec une impression, en tout cas, que, encore une fois, le mal nous mord ou nous blesse. Mais voilà, il y a une ouverture qui se fait, il y a un avenir qui s'ouvre, il y a quelque chose de neuf qui se met en place, et c'est peut-être là que se love la providence, ou que se dise quelque chose de la présence de Dieu, non pas pour limiter notre liberté, non pas pour nous réduire, mais véritablement pour nous ouvrir à plus grand encore que ce que l'on pouvait imaginer ou rêver. Mais là, on est vraiment dans l'acte de foi, parce que d'autres pourront dire, mais c'est de l'autosuggestion qu'on est en train de se mettre là en place, mais je crois vraiment que c'est de l'ordre de la foi.
Mmh. Isabelle Mordant, il en faut de la foi pour tenir quand on croit que Dieu veille et puis que la maladie vous tombe dessus. Racontez-nous un peu ce qui est arrivé avec Thomas.
Alors, je suis pas tombée dans la foi quand j'étais toute petite. Donc, je sais pas s'il en faut de la foi, ou s'il faut la chercher, ou s'il faut en trouver.
Si ce n'est de la foi en l'avenir, en tout cas.
Oui. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que la maladie de Thomas est une maladie qui fait énormément souffrir, puisque Thomas se fait des fractures en permanence.
Voilà, une maladie des os de verre, voilà, qui n'a pas été
sous une forme extrêmement sévère, qui en plus n'a pas été diagnostiquée facilement, puisqu'on nous a d'abord accusé de maltraiter notre bébé qui a fait des fractures inexpliquées. Je garde de cette époque, disons des quelques premières années de vie de Thomas, donc maintenant il y a presque 20 ans, le souvenir de ténèbres. Vous avez tous les deux employé le mot ténèbres. Tout allait mal, on nous accusait, puis après on nous accusait plus, mais on nous a prononcé une maladie horrible. De fait, j'avais un enfant qui souffrait, un vrai martyr, et c'est vrai que être maman et voir souffrir son enfant, on est totalement impuissant, et on ne peut pas l'aider dans la mesure où on ne peut pas lui expliquer pourquoi il a mal comme ça. La souffrance de l'enfant, je trouve que c'est absurde et c'est injuste. En ce qui me concerne,
vous étiez dans une profonde incompréhension. Qu'est-ce qui se passait?
Oui, en plus, on était dans une incompréhension de la maladie. Mais quand bien même on aurait eu un vrai diagnostic, pourquoi est-ce que cette maladie touche mon enfant? Pourquoi elle touche un enfant? Pourquoi elle existe en soi? J'ai eu l'impression d'être confrontée au mal. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le mal dans la religion, mais j'ai eu l'impression d'y être confrontée de plein fouet, sans aucune explication. Et à ce moment-là, je ne sais pas si j'avais une foi, mais la manière dont elle s'est exprimée, ça a été d'interpeller le Seigneur en lui disant « Mais si tu es tout puissant, pourquoi permets-tu ça ? Pourquoi permets-tu que ça arrive ? Pourquoi le veux-tu ? Et quel est, si ça a un sens, quel est-il ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon là-dedans ? Donc ma première...
Ça n'a rien changé, sauf votre regard sur ce qui se passait. S'adresser à Dieu comme ça. Ça n'a pas guéri Thomas.
Ça n'a pas guéri Thomas. Ça n'a pas guéri Thomas et ça ne m'a pas soignée moi-même. Ça m'a permis... en fait, à ce moment-là, si vous voulez mon parcours de foi, à ce moment-là, je me suis dit, je ferme la porte. Pour l'instant, je ne pose plus la question. J'accompagne mon fils.
Du pourquoi ?
L'accompagne, la question du pourquoi. Il y a peut-être un pourquoi, je ne sais pas. J'accompagne mon fils, l'accompagnement matériel et concret de mon fils avec un handicap très lourd, une scolarisation qui a été très difficile à organiser, des institutions qui ne sont pas très capables d'accueillir aujourd'hui les personnes très lourdement handicapées dans notre pays, m'a occupée pendant très longtemps. La question du pourquoi, je l'ai mise de côté, puis elle est revenue, parce que on peut pas être confronté à quelque chose d'aussi existentiel, d'aussi vital,
sans chercher une réponse.
Voilà. Après, j'ai décidé, façon de parler, j'ai accepté l'idée que je ne saurais jamais pourquoi. Et qu'à partir de ce moment-là, J'avais le choix entre me dire que tout était absurde et de continuer bon an mal an comme je pouvais, ou bien de me dire qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait un sens à tout ça, mais que je le comprenais pas et que je le comprendrais pas, qu'il fallait que je cesse de le chercher. Donc c'est, alors là, c'était un obstacle à mon intelligence et à ma raison. Là où ça m'a aidée, c'est quand j'ai accepté d'une certaine manière, de m'agenouiller devant cet obstacle en disant j'accepte l'obstacle, je ne comprendrai pas et je veux croire quand même et je m'en remets quand même à toi.
Et c'est là où l'avenir s'ouvre peut-être, cet avenir dont parlait Sébastien
Antoni.
Alors
ça ne s'est pas fait non plus en un jour. Hein.
J'imagine, il faut même des années. Cet avenir que vous avez entamé, et j'allais dire ouvert avec Thomas, parce qu'il a fait donc des études brillantes. Alors, parce que vous étiez aussi avec lui.
Mais peut-être aussi parce qu'il y a eu des petits signes, c'est-à-dire que Thomas, il a un caractère, alors il a une intelligence qui est tout à fait hors du commun, il a aussi une force de caractère. Oui, aujourd'hui il a 20 ans, il est en thèse, normalien, en thèse de mathématiques. Ouais. Alors même qu'il ne peut même plus écrire et qu'il doit dicter tout son travail depuis déjà une bonne dizaine d'années. Il y a sa formidable intelligence, il y a sa force de caractère qui est éblouissante et qui dépasse les montagnes, il y a sa foi, lui aussi, dont je pas forcément parler publiquement, mais qui pour moi a été un signe que lui qui souffrait tant ne refusait pas, ne faisait pas, enfin voilà, ne se braquait pas.
Ne s'arrêtait pas à cette question. Pourquoi ?
Il y a eu des rencontres, des amis, des personnes avec qui on a pu parler. Il y a eu quelques événements heureux. Alors je ne sais pas si les événements sont des signes, je ne veux pas tomber dans la superstition, mais il y a quand même eu des choses qui sont arrivées, qui étaient imprévues, qui étaient imprévisibles et qui nous ont aidés. Donc je pense que l'accumulation de ces petits signes et puis d'un moment où la vie est un peu avancée, j'ai accepté de me reposer la question et de ne pas y répondre. Là, c'est devenu effectivement quelque chose de très apaisant.
Et vous l'expliquez dans votre livre, vous êtes fière de votre fils.
Ah, je suis, bien sûr.
Oui, bien sûr, mais en tout cas, il a fallu accepter avec lui tout ce parcours.
Mais j'ai aucune raison de ne pas être fière de lui, parce que lui, il est d'une dignité incroyable. Il est complètement dépendant physiquement, il faut tout faire pour lui. Il accepte ça avec une simplicité absolument incroyable. Il ne se révolte jamais. Il demande très gentiment l'aide en s'inquiétant de pas trop fatiguer son père, sa mère ou la personne qui l'aide. Il est toujours très attentif aux autres. J'ai que des raisons d'être fière de lui, hein, et j'ai que des raisons aussi d'essayer de me hisser à sa hauteur.
Antoine Louis, je vous voyais approuver de la tête simplement quand Isabelle Mordant nous disait que les événements étaient comme des signes.
Enfin, je sais pas, évidemment, ce témoignage est très bouleversant et très, très encourageant et très beau. Moi, je crois que on choisit pas nos situations de vie, et je crois qu'il y a quelque chose qui est assez sage dans ce qui a été dit, c'est que quelque part, peut-être, il faut renoncer à dire pourquoi. En revanche, de se dire, voilà, dans ce qui est donné, comment, quand même, ce que j'ai dit tout à l'heure, essayer de poser un acte de foi, un acte d'espérance, de se dire, j'accepte de ne pas comprendre, mais dans ce qui m'est donné à vivre, eh ben, quel chemin de fécondité, quel chemin d'évangile, quel chemin de vie je vais trouver. Et je trouve que dans votre témoignage, il y a quelque chose de moi qui me construit dans ce registre-là.
Autre histoire, Marie Ocante. Alors là, il s'agit d'un roman.
Mais, oui, mais la frontière entre la réalité
voilà,
et la
habité
fiction.
Habité de beaucoup de choses qui doivent marquer votre propre existence.
C'est sûr.
Yasmine et Elias sont orphelins. Ils fuient Damas parce que leur mère vient de mourir. Elle leur a dit de rejoindre l'Angleterre. Donc on sait bien tout le chemin aussi des personnes en migration aujourd'hui. La grande sœur, c'est elle qui raconte. Hein, elle raconte ce périple
à la première personne,
dangereux à la première personne. C'est à la fois un hommage aux migrants, à leur courage, à leur confiance, aux chrétiens d'Orient aussi.
Aux chrétiens d'Orient et aussi à la fratrie, puisque vous savez, je suis très préoccupée à la fois par les chrétiens d'Orient, mais m'émeuvent beaucoup évidemment. Et donc cette fille, je pensais quand je vous entendais parler, est-ce que je pourrais parler du mot providence ? Certainement pas, quand toute sa famille est massacrée devant elle, elle n'a que 15 ans, son petit frère a 9 ans, massacrée parce que chrétienne, père, mère, grand-père, grand-mère et grande-sœur. Donc elle a à ce moment-là qu'une solution. Elle va immédiatement voir le prêtre maronite, puisqu'elle est maronite, à Damas. Et elle, lui, il veut bien s'occuper d'elle et de son petit frère, mais elle dit qu'elle veut partir pour répondre à la demande de sa maman. Sa maman qui lui a dit au dernier moment, fuyez la Syrie. Et donc, elle décide de partir avec son petit frère handicapé à la main. Elle le tient par la main. Non seulement elle le tient par la main, mais elle accroche ses vêtements avec une épingle à nourrice la nuit de peur qu'il s'en aille. Et vous savez, quand on tient la main, quand on se tient la main, on ne sait jamais qui tient la main de l'autre. Et au bout de compte, il leur arrive des choses très graves aussi pour elle. Et à ce moment-là, quand elle doit commettre un acte irréparable en Turquie, eh bien, c'est son petit frère qui la porte d'une certaine façon et qui applaudit à son geste, même si c'est un geste très difficile.
C'est-à-dire qu'il faut se défendre sur ce chemin.
Voilà. Hein, mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle rencontre les femmes kurdes aussi. Et les femmes kurdes, pour elles, c'est quelque chose, puisqu'elles lui apprennent plein de choses de la vie. Elles sont un modèle de vie ensemble, aussi bien écologiquement que dans tous les domaines, puisqu'elles sont laïques, mais elles permettent aux musulmanes de faire leur prière aussi, et aux chrétiennes. Elle a pu faire sa prière là-bas avec d'autres chrétiennes. Et elle apprend tout des femmes kurdes. Et après, elle peut continuer dans son chemin. Mais il y a un moment donné où elle interroge beaucoup Dieu, évidemment. Mais elle dit à son petit frère, Elias, qui a 9 ans, elle lui dit « Jésus est monté dans notre bateau. Jésus monté bateau. » Et à partir de là, elle le sécurise. Et donc, ils vont plus loin encore. Et il se trouve que j'ai été très émue, moi aussi, quand j'ai vécu la messe de Noël dans la jungle de Calais en 2015. Ça m'a donné l'idée de ce livre, en plus du fait que mon grand-père est allé en Syrie en 1922 sous mandat français, mais ça m'a donné quand même cette idée. Je me suis demandé quel était le destin de ces jeunes. Tous ceux que j'ai rencontrés, les mineurs isolés, quel serait leur destin? L'ouverture dont vous parliez tout à l'heure, quelle vie?
Quel avenir?
Et donc, il se trouve que cette jeune fille, à un moment donné, son petit frère lui dit 2 mots alors qu'il ne parle pas. Et pendant une messe, elle croit entendre ou elle entend, on ne sait pas, Jésus monté bateau. Du coup, quand elle va être amenée à la fin du livre à monter en avion, elle lui dit Jésus monté avion. Et elle va pas perdre sa foi chrétienne, même si elle part dans un autre pays avec d'autres gens, avec d'autres bouddhistes. Voilà.
Donc c'est bien la question, malgré tout, de la providence, en tout cas de cette confiance en Dieu.
C'est ça.
En dépit d'une épreuve.
C'est ça.
Terrible.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix d'être médiocre. Quand on a un frère handicapé, moi c'était mon cas aussi, j'ai pas eu le choix d'être médiocre. Comme vous avez dit, on s'occupe.
Isabelle Mandant.
Et on ne se pose même pas la question. On ne travaille plus à l'extérieur, on travaille avec ce fait-là. Il est handicapé, on s'occupe de lui, il a besoin de nous. Que faire d'autre?
Mais en même temps, dans l'épreuve, il s'agit aussi de garder confiance. Je reprends dans votre livre une expression. À un moment, le chapitre commence, elle dit « Dieu est avec nous, nous avons la chance d'être vivants ». Comment on garde confiance? On pourrait vous poser la question aussi, d'ailleurs.
Alors, c'est qu'elle a envie d'aller plus loin pour son petit frère. Elle est tellement attachée à lui qu'elle a l'impression que la force de vie, elle lui est donnée peut-être par ce petit frère.
Et tenir la promesse de
on
la
ne sait
maman
pas. Exactement. Elle n'a pas eu le choix. La maman lui a dit « Fuyez la Syrie, en train de mourir dans la maison, une grande maison cossue de Damas, chez les chrétiens. » Voilà, elle n'a pas eu le choix. Elle a dit « Je m'en vais. Je m'en vais. » Mais il s'est passé beaucoup de choses sur son voyage. Et on peut dire que son voyage s'est fait... Elle a gagné en liberté intérieure, elle a gagné en liberté aussi. Bien qu'elle ait eu un deuxième traumatisme, c'est quand elle a appris que ça... qu'on ne pouvait pas l'accueillir en Angleterre, que sa tante ne pouvait pas l'accueillir en Angleterre. Alors là, c'était une deuxième fois, elle perdait sa famille. Mais ça s'est ouvert d'une autre façon,
et
parce que j'ai voulu que
confiance.
Ça se termine quand même pas trop mal. Voilà, j'ai toujours les confiances dans le destin des gens, moi-même, donc voilà.
Je viens de Damas, c'est publié chez Ramsay. Isabelle Mordant, oui, comment on garde confiance?
Tout à l'heure, vous avez parlé, j'ai repris le mot de ténèbres. Je pense que ces ténèbres, c'était justement l'absence de confiance. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les difficultés du début, on avait peur qu'il n'y ait pas d'avenir. On avait l'impression que Thomas n'avait pas d'avenir, qu'il ne pouvait être que malheureux. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il déjouait les pronostics, qu'il trouvait des moyens d'être heureux et qu'il était heureux. Et il a déjoué les pronostics médicaux parce qu'à certains moments, son état de santé était tel qu'on a craint même pour sa vie. Il a déjoué tous les pronostics scolaires puisqu'on nous disait qu'un enfant comme lui, ça va dans une institution. Il a eu son bac à 14 ans et demi. Il est rentré à Normale Sup à 16 ans et demi. Il a déjoué tous les pronostics pessimistes. Comment ne pas avoir confiance après ça? Moi, j'ai confiance en la vie.
C'est comme le petit frère de Yasmine, c'est lui qui tirait par la main. Et là, c'est Thomas qui vous a tiré.
C'est lui qui nous donne confiance.
Qui vous a tiré par la main.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et si l'espoir revenait, tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
et si l'espoir revenait, va dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. C'est la chanson L'Espoir de Bernard Lavilliers. Et Jeanne Chéral, ça fait plaisir à Pierre Samanos qui est derrière la vitre à la technique. La providence, cette générosité de Dieu, c'est Grand Angle sur RCF. On en parle aujourd'hui avec Sébastien Anthony, Marie Ocante, Antoine Nouis et Isabelle Mordant.
Grand Angle, Christophe Hénin.
On le disait juste avant la musique, votre fils Thomas, Isabelle Mordant, a déjoué tous les pronostics, déjoué tout ce qu'on pouvait prévoir. Antoine Nouis, oui, c'est un peu ça quand même, un Dieu qui surprend. La providence, c'est pas seulement obtenir, j'ai envie de dire presque dans un rapport presque marchand, obtenir ce qu'on a demandé à Dieu, ça peut parfois justement être cette surprise, ce Dieu qui déjoue les prévisions.
Mais complètement, et je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est que dans un Dans une première approche, on pourrait dire, bon, ben, les gens qui croient à la Providence, c'est les gens pour qui tout va bien.
Ils sont gâtés par la vie, quoi.
Voilà, ils sont gâtés par la vie. Conclusion, c'est pas facile de croire quand on est gâté par la vie. Et ce que je trouve que dans votre témoignage, Isabelle, et aussi dans beaucoup de témoignages que j'ai reçus, que de façon tout à fait paradoxale, c'est justement dans l'épreuve, c'est justement dans la nuit, c'est justement que parfois il y a un terreau qui nous oblige à nous poser la question, nous poser la question de la vie, nous poser la question de pourquoi, et d'accueillir cette providence paradoxale. Il suffit de voir, je veux dire, notre pays, la France, est un pays les plus merveilleux du monde, et c'est un des pays où les églises sont plus vides. Enfin, j'irai. Ça veut dire, enfin, c'est un peu un paradoxe total. Enfin, j'irai.
D'Orient, dont parle par exemple Marie Coquant,
voilà, qui aurait toutes les raisons de dire zut à Dieu et de se révolter de colère, etc. Il y a des églises qui sont pleines. Enfin, j'irai. Enfin, c'est vraiment ce paradoxe qui est à la fois tragique. Que parfois, c'est effectivement dans la traversée de la nuit de l'épreuve qu'on découvre ce Dieu de lumière, ce Dieu de providence.
Mmh. Sébastien Anthony, ah. Dieu nous joue des tours, il déjoue ce qu'on peut attendre de lui ou comment?
Des bons tours, alors.
Oui, non, mais je veux dire, c'est ça, cette providence, c'est pas obtenir après la prière de demande ce qu'on a, ou en même temps, la prière de demande, enfin, on n'est pas loin de cette question-là, de la prière de demande qu'on peut formuler et avec. Je veux dire un résultat ou un retour qui peut surprendre.
Je crois qu'on est, il y a une certaine solitude aussi par rapport à la providence, une certaine solitude où on est seul finalement à pouvoir dire, reconnaître, appeler sa providence. Et je me sentirais pas du tout autorisé à dire mais si là forcément la providence est à l'œuvre, mais regarde donc, tu n'as pas vu, ou au contraire de dire mon Dieu, il voit de la providence ici, mais on est finalement très très seul, comme finalement une histoire de foi avec Dieu. C'est pas de la prédestination non plus, hein. C'est compliqué. C'est difficile d'en parler. C'est ce que je disais au tout début. C'est difficile d'en dire les mots, parce que finalement on reconnaît la trace, le passage du Seigneur dans sa propre vie, et on l'appelle providence et on le reconnaît comme tel, avec effectivement toutes ces questions de mal, de difficultés à traverser, de surprise aussi, parce que c'est pas une réponse à ce que l'on a voulu, à un programme, comme vous disiez tout à l'heure, une prière, et puis on attend que ça soit exactement comme ça, que la réponse donnée par Dieu soit conforme à ce qu'on exige de lui. C'est pas ça non plus la providence. C'est difficile, c'est presque gazeux comme truc.
Alors la providence, un espace gazeux où Dieu peut nous surprendre, voilà une définition qui peut là aussi surprendre, mais elle n'était pas prévue, mais voilà. Marie Coquant, qu'est-ce que vous ajouterez?
Je pense pas qu'on soit seul devant la providence, parce que par exemple je pense à Yasmine, parce que si vous me demandez par rapport à la providence que j'ai vécue moi, là je parle que de Yasmine, mais Yasmine
l'a
trouvée.
Vous pouvez nous parler, témoigner à titre personnel après si vous le souhaitez, mais poursuivez
donc,
sur Yasmine.
Yasmine, elle le trouve dans les rencontres, c'est-à-dire d'un seul coup, elle va s'ouvrir au monde, elle va voir que des gens vivent différemment, elle va vouloir avoir une attention à l'autre en dehors de son petit frère en qui elle a vraiment une grande confiance et une grande attention, mais elle va s'ouvrir aux autres, et c'est l'ouverture aux autres, l'attention aux autres qu'elle sent, qui va la faire vouloir devenir médecin, d'ailleurs, pour aider les autres. Parce que quand on a un petit frère malade, souvent, on veut devenir médecin.
N'est-ce pas ?
Je sais de quoi je parle. Et voilà.
Alors, parlez-nous justement de votre frère que vous avez évoqué dans un livre précédent, Mes voyages entre nuit et lumière.
Oui, petit frère l'orage aussi, surtout.
Oui, petit frère l'orage, effectivement.
C'est-à-dire que je lui dois tout, en fait.
Celui qui semblait le plus démuni de la famille.
Voilà, et il me regardait avec grande générosité. Parfois, je me disais que quand je bougeais pas assez, quand il me voyait bouger, il était content, alors qu'il ne bougeait pas. Et je me disais que si j'étais sur un fauteuil roulant, ce serait pareil pour moi, puisque souvent, je suis à mon bureau en train d'écrire dans ma forêt. Et je m'en voulais un petit peu de ne pas être vive.
De ne pas profiter du mouvement possible.
Il a toujours été très présent pour moi, à tel point que lorsque j'ai reçu la Légion d'honneur pour mon engagement...
Auprès des handicapés.
C'est pour lui. C'est lui qui l'a reçu, ouais. Et c'est lui qui a pu en profiter un an avant sa mort. Et pour moi, c'était le miracle de la vie. C'était sa Légion d'honneur. Ce n'était pas la mienne.
Parce qu'il a révélé les capacités que vous aviez en vous pour être auprès des handicapés.
Il a révélé toute la famille. Il a révélé maman qui n'avait pas suivi d'études et qui ne savait même pas lire correctement et qui est devenue intelligente grâce à lui. Il a déterminé l'engagement de mon fils chrétien. Il a tout bousculé en étant ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un...
Le plus fragile.
Voilà, fragile et christique, parce qu'il n'a pas de péché, donc il est christique. Donc je pense à lui tous les jours, il y a 10 ans qu'il est mort et il existe toujours pour moi, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire revivre. Je veux vivre deux fois, c'est pour ça que j'écris. J'ai écrit « Je viens de Damas » pour vivre encore avec mon petit frère, parce que pour moi c'était essentiel d'être encore avec lui et pendant toute l'écriture...
Et de recevoir encore de lui.
Voilà, de toute l'écriture, je lui ai tenu la main à nouveau.
Isabelle Mandant, Marieke Aucante nous parle de l'importance des rencontres. Je pense que ça doit aussi, dans votre existence, marquer des points d'étape aussi dans ce chemin.
Oui, alors je rejoins ce que disait le père tout à l'heure, on est tout seul face à la question de la providence. Ça, enfin, moi, je le ressens effectivement comme ça. Mais des rencontres, c'est très étonnant. Quand on est dans l'épreuve et dans la partie la plus sombre, la réalité, c'est qu'on perd des gens. Il faut bien le dire. Il y a des gens qui ne supportent pas ça et qui s'éloignent. Il s'agit pas de le leur reprocher. C'est un fait. C'est tout. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui se rapprochent et qui se révèlent. Vous disiez, mon frère nous a tous révélés, a révélé toute la famille à elle-même. Et l'épreuve, la difficulté, la maladie révèle chacun à lui-même et révèle les personnes les unes aux autres d'une certaine manière. Et oui, alors il y a des rencontres à la fois dans des professionnels de santé, des accompagnants, des gens, dans le milieu scolaire, des amis, des choses, des chaînes de solidarité qui se mettent en place, alors qu'on n'a rien demandé, qu'on les imaginait même pas, qu'on est en train de chercher tout seul une solution, et puis d'un seul coup, quelqu'un arrive et dit j'ai tout organisé, et puis parfois des paroles, mais c'est très étonnant, parfois une personne dit quelque chose sans forcément se rendre compte de l'importance que ça peut avoir, et ça déclenche. Moi, j'ai des amis, enfin, sur le plan spirituel, effectivement, qui m'ont parfois dit une phrase qui est la base de mon cheminement qui a suivi. Et alors, est-ce que c'est la providence? Je me dis que ça peut pas être complètement le hasard.
Est-ce que c'est peut-être après coup, ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure, après coup, on se dit ah ben là, il s'est passé
complètement,
quelque chose.
Complètement. Mais j'ai écrit ce livre récemment. Il retrace 20 années de vie et j'aurais pas du tout écrit la même chose il y a 10 ou 15 ans. Évidemment
si vous aviez tenu
après
coup. Un journal, ça n'aurait
c'est
pas
évidemment
été la
après
même...
coup. Et quand je dis qu'il y a des phrases qui sont déterminantes, parfois elles sont pas perçues comme telles sur le moment. Parfois, au contraire, elles peuvent heurter même. On peut dire, telle personne n'a rien compris. Il me dit quelque chose qui me blesse.
Ça, vous avez eu quand même quelques.
Voilà. Mais qui en même temps font avancer.
Parfois difficile. Hein.
Oui, mmh. Mais peut-être qu'on grandit tous les uns et les autres dans ces confrontations aussi.
Marie Coquante, vous voulez parler, allez-y.
On ne comprend jamais les choses quand on les vit. Je crois qu'on les comprend après, mais jamais avant et jamais pendant. Moi-même, j'ai eu une révélation à l'île d'Aix sur les prêtres martyrs que je ne connaissais pas. Et ça
que vous avez raconté par la suite.
Ça, on peut appeler ça la providence, c'est sûr. Et ça m'est venu après le décès de mon petit frère. Comme si je cherchais quelque chose et que j'ai trouvé ce que je n'ai pas cherché d'ailleurs.
Antoine, oui, c'est tout l'exercice de la Bible, ça, cette relecture de l'histoire sainte.
Moi, je crois que si on veut essayer de... Enfin, moi, j'aimais, il y a un professeur de littérature qui s'appelait Northrop Frye, qui, à la fin du siècle dernier, a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Code. Et c'est assez amusant parce qu'il a décidé de prendre la Bible de façon totalement différente que des exégètes, c'est-à-dire de le prendre comme un objet de littérature qui commence à Genèse et qui finit l'Apocalypse. Il dit, je lis ça comme une histoire, et qu'est-ce que je vois? Et il dit, ce que je vois, c'est une série de grands malheurs suivis d'une série de relèvements. Et d'une certaine manière, la Bible n'est qu'une série de grands malheurs. Hein. Alors, il dit, il y a eu déluge, le relèvement Abraham, il y a l'esclavage, le relèvement à la libération, il y a l'exil, le retour, il y a la croix, la résurrection, il y a l'église persécutée, l'apocalypse, enfin je veux dire, et de dire que d'une certaine manière, comme si c'était le code de la Bible, enfin, ils appellent ça le grand code, hein, le code de la Bible, quelque part, était aussi le code de notre existence, et que la vie chrétienne ne dit jamais que nous ne serons pas confrontés au grand malheur, mais l'espérance chrétienne nous dit que derrière le grand malheur, il y a toujours une possibilité de relèvement. Et d'une certaine manière, et c'est ça qui est fondamental, essentiel, qui nous construit. Et ce que je trouve, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, de, totalement paradoxal, c'est de voir que, et c'est parfois dans cette traversée de l'épreuve, dans la rencontre avec le grand malheur, que se découvre quelque chose de l'évangile, et ce quelque chose de l'évangile qui nous permet de nous relever. Et ce qui est de fabuleux dans l'humain, ce qui est fabuleux dans la foi, c'est toujours cette capacité de se relever.
Heureux ceux qui sont à bout de souffle, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent sans désespérer, Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Heureux ceux qui renoncent à la violence, ils recevront la terre de Dieu. Heureux ceux qui entourent ceux qui souffrent, Dieu vient leur tenir la main. Heureux ceux qui ont le cœur pur et limpide, car de leurs yeux, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux, car ils sont fils de Dieu. Heureux ceux qui perdent tout parce qu'ils aiment comme Dieu. Le royaume des cieux est à eux. Venez danser, venez, vous êtes les lumières du bal. Vivez debout, vivez, vous êtes la lumière du monde. Venez danser, venez, c'est l'amour que l'on danse à ce bal. À bout de souffle, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent sans désespérer, Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Heureux ceux qui renoncent à la violence, ils recevront la terre de Dieu. Heureux ceux qui entourent ceux qui souffrent, Dieu vient leur tenir la main. Heureux ceux qui ont le cœur pur et limpide, car de leurs yeux, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux, car ils sont fils de Dieu. Heureux ceux qui perdent tout parce qu'ils aiment comme Dieu. Le royaume des cieux est à eux. Venez danser, venez, vous êtes les lumières du bal. Vivez debout, vivez, vous êtes la lumière du monde. Venez danser, venez, c'est l'amour que l'on danse à ce bal. Venez danser, venez.
Heureux, c'est Éric Julien qui chante dans son album Des Nouvelles du Ciel, qui nous chante les Béatitudes. Eh bien, ça a peut-être quelque chose à voir aussi avec la Providence, cette générosité de Dieu, le thème de Grand Angle sur RCF aujourd'hui, avec Sébastien Anthony, Marie Ocante, Antoine Nuis et Isabelle Mordant.
Grand Angle, Christophe Hénin.
On fait le tour de cette providence qui n'est pas forcément très très simple aussi. Cette providence, c'est aussi les traces de Dieu, on l'a dit, hein, les traces de Dieu dans nos existences. Et j'ai envie de revenir à cette question de la liberté, malgré tout, du chemin que nous pouvons tracer. Si Dieu met des bornes, nous surprend, on l'a dit hein, tout à l'heure, nous surprend aussi de temps à autre, que reste-t-il de la liberté humaine, Sébastien Anthony? Vaste question, je sais.
Sujet de philo.
On n'est pas loin du bac,
c'est ça. Que reste-t-il de la liberté? Je crois d'abord la liberté, encore une fois, de reconnaître ces signes de Dieu, cette présence de Dieu, cette liberté d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Mais je n'ai pas envie de croire, en tout cas, ou à, encore une fois, une prédestination qui nous dirait, tu es dans un tunnel, j'interviendrai là à tel moment pour que quelque chose de bien se passe, quelque chose de mal se passe, ou finalement nous serions des marionnettes ou des pantins d'un dieu marionnettiste, en l'occurrence. La liberté, c'est de croire, malgré tout, malgré moi, malgré les événements, de voir la présence du Seigneur dans ces événements-là. Mais là, encore une fois, c'est un acte de foi et je suis très pudique par rapport à ça parce que ma foi n'est peut-être pas tout à fait du même degré d'un autre, et encore une fois, appeler providence ce que j'appelle providence ou ce qu'un autre appelle providence, c'est peut-être pas tout à fait ce que l'on dit ou ce que l'on voit. Et la seule chose, s'il devait rester le plus petit dénominateur commun, c'est de dire je veux y croire ou je veux le recevoir comme tel, et c'est là que s'exerce ma liberté de le reconnaître comme tel ou non.
Marie Coquante, c'est à la fois la liberté de croire, la liberté de chercher la liberté, hein, dans votre roman, les personnages qui sont, on a bien compris, qui sont aussi la synthèse peut-être de beaucoup de témoignages que vous avez pu recueillir et recevoir. Oui, cette liberté, c'est la liberté de l'homme, elle n'est pas concurrente à la liberté de Dieu, à l'intervention de Dieu.
C'est-à-dire que la liberté, du coup, pour cette jeune fille, elle n'existait pas. Son père allait la marier. C'était un artisan de la soie à Damas. Donc, il lui avait déjà cousu une très, très belle robe pour son mariage. Donc, en fait, la mort de toute sa famille la projette tout de suite dans la vie adulte. Elle dit « Je suis vieille ». À 15 ans, elle dit « Je suis vieille ». Et donc, elle fait l'apprentissage de la liberté avec les femmes kurdes. Donc elle va devenir libre intérieurement et extérieurement, mais tout en vivant avec ses morts. Parce que je crois, comme Bernanos, que il n'y a pas le royaume des morts, le royaume des vivants. Il n'y a qu'un seul royaume, le royaume de Dieu, et on est dedans. Et elle a fait apparaître sa mère plusieurs fois pendant le voyage. Et à la fin, on a l'impression que sa famille lui donne la bénédiction pour ce qu'elle vit d'extraordinaire qui n'était absolument pas prévu puisqu'elle se retrouve en Asie.
Cette liberté, Isabelle Mordant, Thomas peut aussi la revendiquer.
Ah mais Thomas c'est la personne la plus libre. C'est la personne la plus libre que je connaisse parce que il est dans un carcan physique, il vit allongé, il est totalement dépendant des autres et il a un esprit, une vie alors intellectuelle mais pas seulement intellectuelle, une vie spirituelle, une vie affective, qui ne connaît pas d'entrave autre que celle qu'il se fixe ou qu'il estime que la morale ou la foi ou un certain nombre de règles lui fixent, mais il se les laisse pas imposer par la société, on va dire. Et puis la liberté, à titre personnel, je supporterais pas l'idée d'être un pantin, d'être un jouet dans les. Vous parliez d'une succession d'événements malheureux suivis de renaissance ou de relèvement. Bien sûr, les événements arrivent. Moi, je veux croire et je suis libre de croire et je veux croire que Dieu est derrière ces événements et qu'il y a un dessein, qu'il y a un sens, même si ce sens m'échappe. Mais je me sens aussi entièrement libre de la façon dont je réagis aux événements. C'est-à-dire que quand mon enfant se casse, je peux m'asseoir par terre, me mettre à pleurer, accuser la terre entière. Je peux aussi choisir, ce qui n'est pas tout à fait naturel, de faire abstraction de mon propre chagrin, de ma propre douleur, pour essayer de rester calme, de le soigner, d'essayer de le soulager, de manière qui est un peu technique, qui est un peu distanciée, mais qui l'aide plus que mon penchant naturel.
Et ça, c'est vous, et ça, c'est pas Dieu ou la Providence.
C'est la façon dont j'accueille l'événement. C'est la façon dont j'accueille l'événement.
Antoine, oui, j'imagine que quand vous évoquiez ces épreuves et ces relèvements, il n'était pas dans votre propos, enfin, j'ai pas compris ça, que Dieu s'imposait à nous.
Mais je dirais, alors, bon. C'est le grand mystère de la vie, hein. Et le grand mystère de la vie, voilà, c'est que on le sait, voilà. Alors on dit c'est Dieu, on dit c'est le péché, on dit c'est le mal, c'est le diable, faut que sais-je, j'en sais rien. Il n'y a pas de monde derrière. Ce qu'il y a, c'est que chacun, dans la situation de vie dans laquelle nous sommes, je crois que la liberté, c'est d'avoir le choix de savoir comment nous voulons vivre et comment nous voulons vivre ce que nous avons à vivre, comment nous allons traverser les parcours de vie avec ce qui nous arrive, voilà. Et est-ce qu'on décide de les traverser en essayant de cultiver l'évangile, hein, je veux dire, de cultiver le sens de l'autre, le sens de Dieu, l'espérance, la fidélité, ou est-ce qu'on décide de se laisser mener par les événements, je dirais, par conduire. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est d'avoir choisi. La liberté, c'est être fidèle, un peu paradoxalement, hein. Et Et ça, je crois que c'est... voilà. Et l'idée, c'est que dans toute situation de vie, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose de la vie à accueillir, j'allais dire. Hein. Et pour moi, c'est ça, la liberté.
Jusqu'au bout, parce que je sais que vous travaillez beaucoup aussi sur l'approche de la mort, la fin de vie. Jusqu'au bout, il nous reste quelque chose de vivre.
Jusqu'au bout, il nous reste quelque chose de vivre. Je veux dire, tout à l'heure, on a entendu, voilà, le témoignage d'Isabelle disant que, à travers la maladie de son fils, elle a découvert quelque chose de Dieu. Mais combien de fois, moi, j'ai eu des témoignages comme ça à partir, je veux dire, j'ai une amie qui a découvert Dieu dans la mort de son enfant. Qu'est-ce qui hurle plus l'absence de Dieu que la mort d'un enfant de 13 ans, d'une tumeur au cerveau. Et pourtant, elle a vécu ça comme étant, alors qu'elle était tout à fait loin de l'Église, elle a eu une révélation à ce moment-là, parce que c'est le paradoxe total. Et je crois que voilà, que en accompagnant des gens qui sont dans la traversée du grand malheur, et ben de savoir que même dans la plus obscure des ténèbres, bon, je veux pas le dire comme une définition, mais je reçois le témoignage que des gens ont vu une lumière. Voilà, j'y peux rien. Enfin, j'y peux rien. Je l'accueille.
Et... Vous en témoignez en tout cas.
Et j'en témoigne. Voilà.
Vous en témoignez. Isabelle Mordant, comment Thomas a lu Enfin, vous avez dû lui lire, non?
Oui,
il peut le lire tout seul.
Il a lu. Il a lu tous les manuscrits à toutes leurs étapes successives. Il n'était pas question de publier quelque chose qu'il n'aurait pas accepté dans son intégralité.
J'imagine bien. Et alors, comment a-t-il reçu ce livre, votre témoignage, regard de son existence à travers votre regard?
Alors, il dit qu'il y a découvert des choses, il a découvert des événements qui se sont produits quand il était petit, qu'il avait oublié, des combats que j'ai menés, dont il n'a pas forcément été conscient parce qu'il était trop petit. Alors, c'est quelqu'un de... Parmi ses innombrables qualités, il est très modeste, donc il trouve que je suis trop flatteuse dans la description
que je fais.
C'est
le regard d'une mère.
Voilà. Et il est surtout très content parce qu'il se dit qu'il peut donner l'image de quelqu'un... de détruit par la maladie et de donc très malheureux, et que ce livre montre la réalité, c'est qu'il est en fait très heureux, et il se dit que ça peut servir à d'autres qui croient, qui s'imaginent que quand on a une maladie, même parfois moins grave, moins invalidante que la sienne, on est condamné au malheur. Donc lui, il voit l'espérance qu'il y a dans ce livre et il espère qu'elle se transmettra.
On arrive au terme de l'émission. Sébastien, Anthony, cette définition de la providence, je pense qu'on pourrait refaire encore une autre émission, mais à chacun peut-être de réfléchir à cette question. Peut-être que la providence, elle ne se réclame pas, mais on en trouve les traces dans notre existence. On l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais elle ne se décrète pas.
Elle se découvre, peut-être. Elle se découvre comme, effectivement, la présence du Seigneur. Humble, comme il sait le faire et comme il sait l'être, humble mais toujours proche de l'homme, marchant avec lui, le portant jusque dans son nom, l'Emmanuel, Dieu avec toi, voilà, et en action de sauver et de sauver encore dans son nom de Jésus, enfin quelque chose comme ça, de voilà, mais humblement jusqu'à ce qu'on le reconnaisse, qu'on l'accueille, qu'on l'accepte, qu'on ose faire le pari de cette foi, de croire effectivement qu'il y a de la lumière au bout de la ténèbre. Mmh.
Marie Coquante, juste on arrive
reconnaître Jésus comme un frère, c'est ce que fait Yasmine. Finalement, il a souffert sur la croix et elle a souffert aussi.
Mais ces migrants que vous avez rencontrés avaient l'avenir ouvert devant eux, avaient le souci de cet avenir,
oui,
avaient cette confiance.
Oui, ils étaient très croyants. Il y avait dans la jungle de Calais, il y avait des églises et des mosquées. Bien sûr.
Merci à tous les quatre pour ce partage autour de la Providence. On peut prolonger l'émission, bien sûr, avec la revue, les cahiers croyants, la Providence, une divine délicatesse. Je viens de Damas, c'est le livre de Marie Coquante, paru aux éditions Ramsay. Mystère de la fragilité, Isabelle Mordant, c'est paru aux éditions du Cerf il y a quelques semaines. Le Nouveau Testament, commentaire intégral, Antoine Nouy, si vous l'ouvrez, vous n'allez plus le lâcher. Merci à Pierre Samanos, qui était à la régie pour cette émission. Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui, c'est même fini pour la saison, place à l'été, aux vacances, aux découvertes, et Grand Angle, c'est fini aussi. On ne se retrouvera pas en septembre, mais je ne veux pas arrêter sans vous remercier, auditeurs, pour votre fidélité. Pendant près de 9 ans, il y a eu des moments forts, émouvants, drôles, enflammés, enthousiastes. Merci à tous les invités qui se sont succédés au micro. Merci aux journalistes de Bayard qui ont participé au débat. Merci à Florence de Saint-Preux qui m'a longtemps assisté, et à celles qui lui ont succédé. Merci. Merci aussi, il y a beaucoup de merci à dire. Merci à l'équipe d'RCF, aux techniciens qui m'ont accompagné chaque semaine en direct. Merci à vous qui écoutiez fidèlement Grand Angle. Je ne quitte pas l'antenne pour autant. On se retrouvera pour parler littérature dès la rentrée avec Au pied de la lettre, avec des auteurs, des écrivains, des romans à découvrir. D'ici là, eh bien, bel été. Grand Angle, c'est fini. Un dernier mot, merci. Et puis vous pouvez toujours réécouter les podcasts. Sébastien Anthony.
Et merci à vous, Christophe. Merci d'avoir de nous avoir accompagnés, d'avoir mis en lumière tout notre travail aussi, à tous les auteurs, les journalistes, les écrivains que vous avez reçus. Merci d'avoir relayé ce qui nous passionne et merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Merci de toutes ces émissions. Merci à vous, Christophe.
Ça, c'était pas prévu. Merci du petit clin d'œil aussi des amis de Bayard, puisque l'émission était toujours nourrie des titres de Bayard et notamment la revue Croire. Allez, c'est l'été. Merci à tous.